Bonjour, j'ai le plaisir, et puis en ce qui concerne Alain de Benoist, j'ajoute que j'ai l'honneur aussi de m'entretenir avec vous pour la sortie de deux nouveaux livres qui sortent simultanément, qui sont pas si différents que ça sur le fond finalement. Il y a « Nous et les autres », vous nous incitez à réfléchir sur l'identité, et puis il y a aussi l'autre livre où vous parlez, qui est plus personnel, vous parlez de vous, on va en parler aussi.
Voilà.
Je voulais vous avoir, et Alain de Benoist, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous êtes philosophe. Une question peut-être hors sujet avant de commencer. Comment réagissez-vous lorsque Jacques Julliard, qui est un homme de gauche, hein, qui pendant longtemps semblait plutôt vous combattre, écrit maintenant, reconnaît maintenant que vous êtes l'un des plus grands intellectuels de notre temps. J'imagine ça fait plaisir, et vous vous êtes dit, est-ce que de toute façon, ce qu'on se dit, est-ce qu'il le pensait déjà, mais il n'osait pas le dire?
Oh, je crois qu'il y a un petit peu de cela. C'est évidemment un commentaire très gentil de sa part, mais Jacques Julliard, que je connais depuis longtemps et dont j'apprécie les travaux, est quelqu'un qui est un esprit très libre, qui a lui-même évolué au cours de ces dernières années, et qui a pris de plus en plus de distance avec l'idéologie dominante, disons, pour faire bref. Je n'ai pas été étonné qu'il écrive cela sur mon compte. Il a fait des écrits qui vont dans le même sens concernant d'autres personnes que moi, et je me suis réjoui évidemment de cette reconnaissance qui ne désarmera pas, bien entendu, les critiques. Et immédiatement, d'ailleurs, il y a eu des critiques qui ont fusé contre lui parce qu'il avait dit ce qu'il ne fallait pas dire. Mais enfin, ça fait partie du jeu actuel.
Alors, aux éditions du Rocher sort votre nouveau livre, « Nous et les autres, l'identité sans fantasme ». Vous commencez d'ailleurs ce livre avec cette réflexion en disant que sur la question de l'identité, pas la phrase exacte, Alain de Benoist, vous dites que c'est quelque chose que on a tous son idée sur l'identité, c'est aussi quelque chose de très flou en chacun de nous, et que finalement c'est essentiel. C'est un peu ce que vous dites au tout début. Voilà.
Oui, je dis que l'identité, c'est effectivement l'introduction de mon livre, elle est à la fois vitale et floue. Et que vital, ça tombe sous le sens, parce que si on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui on est, ni d'où on vient, ni où on va, et on développe alors toutes sortes de pathologies que les psychologues connaissent bien, sur ce qu'ils appellent le malaise identitaire. Donc l'importance de l'identité, je crois qu'il n'y a pas à argumenter beaucoup pour que les gens comprennent que sans identité, on n'est pas grand-chose. Et en même temps, lorsqu'on s'interroge sur la nature, l'essence de l'identité, on se retrouve un peu dans la position de saint Augustin lorsqu'il parlait du temps. Saint Augustin disait, lorsque je ne réfléchis pas spécialement là-dessus, je sais très bien ce que c'est que le temps qui passe, etc. Mais si je me demande au fond qu'est-ce que c'est que le temps, je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué d'y répondre. C'est la même chose avec l'identité dont je dis qu'elle est floue. L'erreur étant de croire que si elle est floue, elle n'est pas vitale, et à l'inverse, que si elle est vitale, elle ne peut pas être floue. Alors pourquoi est-ce que l'identité est floue? D'abord, si on parle de l'identité individuelle, il est clair que la personnalité, qui est celle de chacun d'entre nous, a de multiples facettes. Nous avons une identité culturelle, nous avons une identité nationale, une identité sexuelle, une identité de naissance, mais nous avons également une identité acquise, une identité professionnelle, une identité éventuellement politique, philosophique ou religieuse. Et ces différentes facettes de notre identité ne s'harmonisent pas toujours spontanément les unes avec les autres, et surtout, elles n'ont pas forcément la même importance à nos yeux. Je donne un exemple très simple. Il y a des gens qui sont bretons et français. C'est le cas de la plupart des habitants de la Bretagne. Mais si vous parlez avec eux, certains vous diront « Ah ben moi je suis français d'abord, et puis breton ensuite. » Et puis d'autres, à l'inverse, vous diront « Ah, moi je suis d'abord breton, et ensuite français. » Et par cet exemple, finalement très simple, on pourrait en donner beaucoup d'autres, on voit bien qu'il y a des facettes de notre identité qui comptent plus que d'autres. Pour certains, notre identité politique, ça va être la première chose, l'autre, ça va être l'identité professionnelle, ou encore l'identité sexuelle. Par conséquent, il y a tout un jeu dialectique entre ces facettes de notre identité. Et puis alors, si on passe à l'identité collective, ben, on s'aperçoit de la même complexité. Si vous interrogez quelqu'un pour savoir l'identité de la France, qu'est-ce que c'est que l'identité française, qu'est-ce que c'est que l'identité européenne, vous aurez des réponses, mais vous serez frappé de la grande diversité de ces réponses, de leur côté très subjectif, donc un peu arbitraire, et du fait que certaines des définitions que vous allez recueillir sont même complètement opposées. Donc, à partir de là, on voit bien que l'identité, c'est tout sauf simple, et pourtant, ça reste absolument vital.
D'ailleurs, vous évoquez la tradition juive, le peuple juif, pour montrer que ce n'est pas quelque chose de simple, l'identité, parce que c'est aussi un peuple qui donne beaucoup d'exemples de réflexion, je dis bien de réflexion sur ce qu'est l'identité.
Absolument. J'ai en effet consacré dans mon livre une sorte d'excursus final qui se trouve à la fin du volume, qui est un texte sur l'identité juive et comment elle a été perçue au fil des siècles. J'ai tenu à rédiger cet appendice pour plusieurs raisons. La première, c'est que le peuple juif est l'exemple tout à fait exemplaire d'un peuple qui a été dispersé en diaspora pendant plusieurs millénaires et qui a réussi pour l'essentiel à se maintenir et à maintenir par conséquent son identité, alors que tant de peuples placés dans la même situation, finalement se sont fondus dans la population d'accueil et ont complètement disparu. La deuxième raison, c'est que le peuple juif a toujours été hanté en quelque sorte par la ou les réponses que l'on peut donner à la question « qui est juif ?» Réponse culturelle, réponse dogmatique, réponse religieuse et autres. Et puis enfin, je trouve très intéressant à une époque où beaucoup nous parlent de l'intégration, de l'assimilation de telle ou telle minorité, de voir que le peuple juif nous donne l'exemple d'un peuple qui s'est parfaitement intégré dans la société globale et en même temps qui ne s'est pas assimilé, c'est-à-dire qui a voulu subsister en tant que communauté, ce qu'il a parfaitement réussi à faire. Donc ça justifie qu'on porte un regard un peu privilégié sur cet exemple, mais évidemment ce n'est qu'un exemple parmi d'autres que j'ai choisi pour montrer que la question de l'identité est toujours complexe.
Pourtant, si vous posez des questions à des juifs, certains sont amusés à faire ça. Qui est juif? Vous aurez des réponses diamétralement différentes, en reprenant même le même exemple que vous avez commencé lors du début de notre entretien. Des juifs qui sont plutôt à gauche vont vous sortir toute une tirade sur ce qu'être juif. Des gens plus à droite vont avoir une tirade totalement différente. Les séfarades et askénazes vont avoir des tirades totalement différentes. On n'aura pas l'impression que c'est le même peuple si on les écoute.
Alors la raison fondamentale, c'est que dans toute l'histoire du peuple juif, il y a une sorte de tiraillement dialectique lui aussi entre un pôle particulariste qui vise à maintenir la communauté juive dans sa spécificité et un pôle plus universaliste qui est un peu plus problématique parce que quand on se situe dans une perspective universaliste, il est évidemment plus difficile de maintenir son identité propre. Mais ces deux courants ont entamé au cours des siècles un dialogue, parfois courtois, parfois plus rugueux, qui est éclairant, justement.
Quelle est la différence entre l'identité et la culture ? Parce que souvent, quand on interroge nos relations, on répond avec des questions qui sont plutôt culturelles. On pense culture. On a la même culture. Qu'est-ce que la même identité ? Les gens vous répondent, oui, on s'entend bien parce qu'on a la même culture.
Oui, alors, dans ce que vous dites, il y a deux éléments. D'abord, on s'entend bien parce qu'on se ressemble. C'est une banalité de le dire, qui se ressemble, s'assemble, mais il faut bien comprendre que ça a une portée très profonde, qui nous renvoie aussi bien vers la zoologie que vers la sociologie, c'est-à-dire que, d'une manière générale, tous les grands mammifères vivent en groupe, en société, en corps social, et ils sont portés à se rapprocher de ceux qu'ils perçoivent comme partageant un plus grand nombre de choses, et notamment sur le plan culturel. Aujourd'hui, on critique beaucoup le communautarisme, qui est à mon avis une sorte de perversion ou de caricature de l'esprit de communauté, mais il faut bien voir qu'il y en a un réflexe qui est tout à fait normal. Et la deuxième question, c'est la culture. Ben, la culture, oui, c'est un élément évidemment déterminant de notre identité. Nous sommes nés dans une culture, cette culture nous est familière, elle est la nôtre, elle est partagée par beaucoup de gens qui nous entourent, et c'est ce qui fait que nous avons avec ces gens qui nous entourent des rapports de confiance. On a d'autant plus confiance dans les gens qu'on peut se projeter vers eux, et qu'il est en revanche plus difficile d'avoir des rapports de confiance avec des gens qui sont perçus comme étrangers à ce que nous sommes. Le problème, évidemment, c'est que la culture, ben, elle évolue. La culture dans laquelle nous sommes nés et celle au sein de laquelle nous mourrons n'est pas forcément tout à fait la même. Il y a eu des éléments de transformation dans les mœurs, dans la sociabilité. Et puis, sur la longue durée, on voit bien qu'il y a des éléments de permanence et des éléments de changement. Il est tout à fait légitime de parler de culture française ou de culture européenne, en se situant, là encore, sur la longue durée, et en même temps, on sait bien que la culture française n'est pas exactement la même à l'époque gallo-romaine, à la fin du Moyen-Âge ou à l'époque de la Révolution industrielle.
Alors, je voudrais vous poser une question. J'ai toujours réfléchi là-dessus, puisqu'on parle d'identité, Alain de Benoît, et là, voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre opinion là-dessus. J'ai grandi au Maroc avec des petits Marocains, au lycée français, au lycée Lyautey. Et ces petits Marocains pensaient français, vivaient français, ils étaient au lycée Lyautey, donc ils avaient la culture française, l'éducation à la française. On allait au cinéma ensemble, on rigolait des mêmes blagues sur Louis de Funès, les blagues à l'époque, il y avait le petit rapporteur de Jacques Martin qui passait à la télévision marocaine aussi, on rigolait de la même façon. Et ces mêmes petits Marocains, beaucoup plus tard, devaient rigoler de la même façon en regardant un film comme le Dîner de cons, voilà, avec des mêmes blagues à la française. Et je me suis aperçu que d'autres, ensuite plus tard, que mes camarades de classe, finalement, je pense qu'ils avaient la même culture que moi, je résume ça à ça, que des Autrichiens, des Suédois ou des Allemands parfaitement francophones, mais parfaitement francophones, ne riaient pas aux mêmes blagues devant les films de Louis de Funès et parfois ne les comprenaient pas, ou dans un film comme Le Dîner de cons, alors qu'ils étaient parfaitement francophones. Et ça, j'ai pas été le seul à faire ce constat. Qui a la même culture, finalement ? Que pensez-vous de cette anecdote, Alain de Benoît ?
Je la trouve très intéressante parce que elle nous montre très bien que dans l'humanité, selon les cultures, et à la fois des éléments communs qui font que vous allez pouvoir rire aux mêmes blagues, et puis des éléments de différenciation. Là, vous avez évoqué votre enfance et des petits Marocains avec lesquels vous vous êtes amusé à l'âge qui était le vôtre. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que depuis, il n'est pas intervenu un certain nombre de choses ? Et oui, c'est ça le problème, parce que là, alors, vous dites, vous parlez des gens qui ne raisonnent pas exactement comme les Français, alors qu'ils sont parfaitement francophones. Mais c'est normal, la langue est un élément très important de l'identité, mais ce n'est pas le seul. Si vous vous appliquez, vous pouvez très bien apprendre le chinois. C'est une langue difficile, mais enfin, il y a un certain nombre de Français qui parlent et comprennent le chinois. Ça ne veut pas dire qu'ils seront chinois ou qu'ils raisonneront comme des chinois. Donc la langue, ce n'est que un élément. Et d'une manière générale, il faut tenir compte qu'il y a toujours des choses identiques et des choses différentes. Si l'on ne voit que des choses identiques, alors on va passer à côté de tout ce qui fait la spécificité des cultures. Et c'est là où, personnellement, je suis critique vers un certain universalisme qui croit que on peut partir d'une idée abstraite de l'homme, d'un homme abstrait, d'un homme hors sol, et puis à partir de là, le spécifier en culture. Non. En réalité, c'est l'inverse. Nous appartenons à l'humanité, non pas de façon directe, mais de façon médiate, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une culture. Je dirais même que plus nous sommes enracinés dans notre culture, et plus nous avons de chance d'atteindre une certaine forme d'universalité que je ne confonds pas avec l'universalisme. Disons que Cervantes est d'autant plus universel qu'il est espagnol, que Dante est d'autant plus universel qu'il est italien. Et on pourrait évidemment donner beaucoup d'exemples de ce genre. Et dans mon livre, ce que je sais, c'est de montrer que le plus important, c'est quand même la différence. C'est ce qui fait la richesse de l'humanité, et c'est ce qui fait la richesse de la vie. Si nous sommes tous les mêmes, ça veut dire que nous sommes interchangeables. Si nous sommes interchangeables, ben c'est comme des clones. Et le grand écrivain juif Stefan Zweig, dès 1924, s'inquiétait de ce qu'il appelait l'unification du monde, c'est-à-dire un monde où l'unification était payée du prix de l'abandon des spécificités culturelles. Et si aujourd'hui la question de l'identité a surgi avec la force que l'on voit autour de nous dans le débat public, ben c'est précisément parce que les choses ne vont plus de soi. Je le dis à plusieurs reprises dans mon livre, dans les sociétés traditionnelles, la question de l'identité ne se pose pas. On sait très bien ce qu'on est, à quoi on appartient, de quel milieu on est, etc. Avec la modernité, il y a des facteurs de déracinement qui interviennent, des facteurs de brouillage. Et c'est à ce moment-là que le doute identitaire commence à se manifester et à s'étendre. On se dit, mais au fond, qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Et cette question-là, entretenue par les circonstances de l'actualité, qui lui donne une acuité particulière, comme la question évidemment de l'immigration aujourd'hui, montre à elle seule que l'identité ne va plus de soi, c'est-à-dire qu'elle est menacée, qu'elle s'efface ou qu'elle a carrément disparu. L'interrogation identitaire montre que l'identité ne va plus de soi.
Et voilà, puisque l'on s'interroge, c'est normal. Quand ça va de soi, c'est logique, on n'y pense pas.
Voilà.
Comme dans un couple, quoi. On va lire des revues pourquoi le couple va mal, on va chercher un psy. C'est quand ça commence un peu à avoir un peu de braise, quoi.
Ben oui, absolument.
On se pose pas de questions. Merveilleux. C'est pour ça, votre livre est passé. Merci, L'identité sans fantasme, d'Alain de Benoît, aux éditions du Rocher.